You're with SBS Radio.
Les grands titres de ce dimanche, Donald Trump, le président des États-Unis, lance un appel pour le calme. Il y a un an, Charlottesville, dans l'État de Virginie, a été le théâtre d'extrême violence entre des suprématistes blancs, des néo-nazis et des contre-manifestants. En Australie, le débat sur le plan énergétique national, National Energy Guarantee, qui continue à dominer l'actualité. Le président des États-Unis, Donald Trump, condamne, je cite, « toutes les formes de racisme et d'actes de violence » et lance un appel à l'unité avant l'anniversaire ce dimanche d'un rassemblement nationaliste blanc à Charlottesville en Virginie, il y a un an, qui avait fait un mort, Heather Heyer, 32 ans, tué quand une voiture a percuté une foule de contre-manifestants. Un autre rassemblement d'extrême droite est prévu ce dimanche devant la Maison Blanche. Revenons sur les faits avec Stéphanie Schuller pour Radio France Internationale.
Le soir du vendredi 11 août, des dizaines de néo-nazis et suprémacistes blancs marchent sur le campus de l'université de Charlottesville à la lumière de torches, prélude au grand rassemblement de la droite radicale prévu le lendemain. Ces images renvoient à l'époque la plus sombre des violences raciales aux États-Unis et laissent craindre le pire. Dès les premières heures du samedi matin, des membres de milices d'extrême droite se positionnent en effet près de la statue du général sudiste Robert Lee, défenseur de l'esclavage, statue que la ville veut déboulonner. En tenue paramilitaire, fusil semi-automatique en bandoulière, les membres de la droite radicale arborent des croix gammées et brandissent des drapeaux confédérés. Éclatent alors de violents heurts avec des contre-manifestants venus en grand nombre. La police décide d'annuler le rassemblement de l'extrême droite, le gouverneur de la Virginie déclare l'état d'urgence, des forces de l'ordre supplémentaires sont déployées à Charlottesville, mais cela n'empêche pas le drame d'arriver. Dans la soirée, un homme de 20 ans, partisan né aux nazis, fonce avec sa voiture dans une foule de contre-manifestants. Heather Heyer, 32 ans, meurt. 19 autres personnes sont blessées. Quelques heures après ces événements, Donald Trump suscite l'indignation en déclarant « Je pense qu'il y a des torts des deux côtés ».
Voilà, c'était Stéphanie Schuller pour RFI. La compagnie Monsanto a rejeté les allégations selon lesquelles un ingrédient utilisé dans les désherbants serait cancérigène. Monsanto a été condamné à payer 289 millions de dollars à un ancien jardinier. La décision pourrait créer un précédent pour des milliers d'autres contre Monsanto. Des centaines d'autres personnes aux États-Unis ont également affirmé que le Roundup Weed Killer leur avait directement causé des problèmes de santé. Le groupe pharmaceutique allemand Bayer, qui avait repris Monsanto, est sur la défensive, comme nous l'explique Pascal Thibault pour RFI.
Le glyphosate est sûr et non cancérogène. Le groupe pharmaceutique Bayer a réagi rapidement et sans nuance au jugement américain. L'entreprise allemande se veut sûre d'elle-même et évoque dans sa réaction des preuves scientifiques, des évaluations réglementaires dans le monde entier et des décennies d'utilisation pratique du glyphosate. Mais le jugement du tribunal de San Francisco a relancé les débats en Allemagne sur les pesticides de Monsanto. Renate Künast, du Parti Vert et ancienne ministre de l'Agriculture, a réclamé l'interdiction de l'utilisation du glyphosate en Allemagne. Les organisations de défense de l'environnement ont aussi plaidé pour une telle mesure. Fin novembre 2017, l'Union européenne avait autorisé l'utilisation du produit pour 5 années supplémentaires. Le vote de l'Allemagne avait été décisif et ce malgré un désaccord au sein de la Grande Coalition entre les conservateurs favorables à une prolongation et les sociodémocrates qui y étaient opposés. La reprise par Bayer de Monsanto avait relancé depuis les débats sur le glyphosate et ses dangers potentiels. Le risque pour l'entreprise allemande est énorme, non seulement à cause de nombreuses autres plaintes aux États-Unis, mais aussi en termes d'image.
Pascal Thibault pour RFI. Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull s'est adressé aux fidèles du parti à Perth hier samedi et son message était de renforcer la part de l'Australie occidentale pour les recettes de la GST, la taxe à la valeur ajoutée. Lors de la conférence d'État du Parti libéral, Malcolm Turnbull a déclaré qu'il avait tenu sa promesse qu'il avait faite il y a 2 ans de réforme à long terme du GST pour l'Australie occidentale. Selon le Premier ministre, le Commonwealth fournira une augmentation annuelle permanente à la GST.
an injection of additional funds which will ensure that every state and territory will be better off under our proposal. It will mean that Western Australia will receive $4.7 billion in extra funding between now and 2026-27. That's $4.7 billion extra to spend on schools, on hospitals and other services over the next 8 years.
Le Premier ministre Malcolm Turnbull. Les travaillistes affirment qu'ils ne soutiendraient pas le plan énergétique national, la National Energy Guarantee de Malcolm Turnbull au Parlement, à moins que la politique inclue des opportunités d'investissement. La semaine dernière, les États et les territoires sont tombés d'accord pour poursuivre les négociations sur ce plan. Le Premier ministre demandera un soutien de la coalition libérale mardi prochain. Mark Butler, porte-parole du Labour, déclare que le défaut fondamental du plan énergétique national et qu'il ne créera aucun investissement, y compris dans les énergies renouvelables.
So we've been very constructive here, but we're not going to support an investment setting that will see not a single new energy project built in this country for an entire decade.
Le porte-parole du Labour, Mark Butler. Pour Scott Morrison, le ministre du Trésor, le plan va avoir le soutien de la coalition libérale.
The Turnbull government at a Commonwealth level is for lower electricity prices. If you're for lower electricity prices, you're for the National Energy Guarantee.
Scott Morrison. Mona Vitiasoka, la fille du chef de l'opposition cambodgienne Kem Sokha, a qualifié l'Australie, je cite, de plaque tournante de la mafia de l'élite corrompue du Cambodge. Elle fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il impose des sanctions contre les Cambodgiens qui visitent l'Australie et ont des liens avec le régime du Premier ministre Hun Sen. Son père, Kem Sokha, a été arrêté en 2017 par des autorités cambodgiennes accusées de trahison. Mademoiselle Sokha rencontrera la ministre australienne des Affaires étrangères Julie Bishop cette semaine à Canberra, où elle sera accompagnée par le député des travaillistes du Victoria, Hong Lim, qui affirme que l'Australie doit aider à relancer la démocratie au Cambodge, qui est menacée, selon lui.
Australia organized under the supervision of the United Nations the first democratically just free election for Cambodia at the time. But now we are now taking a back step, and it is sad because Australia now being looked up to in the Asia Pacific region to now to take the lead in matter concerning human rights, concerning corruption, concerning dictatorship like in Cambodia.
Voilà, c'était le député du Parti travailliste du Victoria, Hong Lim. Les scientifiques affirment que le séisme indonésien qui a tué plus de 300 personnes a soulevé l'île de 25 cm. Ils ont fait ce calcul en utilisant des images satellites de Lombok les jours qui ont suivi le séisme du 5 août dernier. Les scientifiques de la NASA ont mesuré les modifications de la surface de l'île. Au nord-ouest de l'île, près de l'épicentre, le sol s'est soulevé de 25 cm. Dans d'autres endroits, il a baissé de 15 cm. Environ 270 000 personnes sont sans abri ou déplacées après ce séisme de 7 sur l'échelle de Richter. En Afrique, 3 ressortissants maliens ont été arrêtés hier à Bamako, selon les autorités. Ils avaient l'intention de commettre des attaques dans la capitale malienne à la veille d'un second tour de l'élection présidentielle qui a été placée sous haute sécurité. Le point avec Serge Daniel pour RFI.
À côté du communiqué officiel, les photos des 3 hommes arrêtés. Ils ont le regard plutôt hagard. Ils sont de nationalité malienne. Leur profession n'est pas précisée. Ils étaient suivis depuis quelques jours à leur arrivée dans la capitale malienne. C'est dans un quartier populaire de Bamako que les forces spéciales des services de renseignement du Mali ont procédé à leur arrestation. Ils avaient, affirme le même communiqué, planifié ce week-end des attaques ciblées sur place. Pour être plus précis, les 3 hommes étaient en repérage avant, semble-t-il, de passer rapidement à la phase d'exécution. Quelles étaient leur cible dans la capitale malienne? Les attaques devaient-elles avoir lieu ce samedi ou ce dimanche, jour d'élection? Pas plus de détails pour le moment, mais le groupe des 3 personnes arrêtées et officiellement qualifié de terroristes était recherché depuis 2016. Depuis cette date, ils étaient accusés d'avoir mené une opération contre un poste de péage de la localité de Sanakoroba, situé à une trentaine de kilomètres au sud de Bamako. Lors de cette attaque, 3 personnes avaient été tuées.
Serge Daniel pour RFI. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé les États-Unis d'essayer d'affaiblir la Turquie. Les États-Unis ont doublé les tarifs douaniers sur les importations turques d'acier et d'aluminium et ont réclamé à plusieurs reprises la libération d'un pasteur américain détenu sur des accusations de terrorisme en Turquie. Les tarifs ont fait chuter la monnaie turque à son plus bas niveau. Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que les relations entre les États-Unis et la Turquie étaient au plus bas. Monsieur Erdogan a écrit un article d'opinion dans le New York Times affirmant que si les États-Unis changent, que si les États-Unis ne changent pas de cap, la Turquie recherchera de nouveaux alliés. En Roumanie, quelques nouvelles manifestations contre le gouvernement et la corruption. Hier, samedi, la situation risque de s'aggraver selon Catherine Durandin, professeure émérite à l'Institut national des langues et civilisations orientales. On l'écoute, elle est sur RFI.
C'est étonnant, parce que cette manifestation venue et organisée au départ par la diaspora, c'est-à-dire par les émigrés, les ex-exilés, qui certains ont retrouvé des propriétés, ce ne sont pas des casseurs, ce ne sont pas des hooligans, ce ne sont pas des gens très jeunes. Donc normalement, ce type de manifestants, et j'en connais, ils ont 70 ans, ils sont vraiment tranquilles avec leurs propriétés en Roumanie. Donc, il y a eu des provocations. Le problème est de savoir d'où elles viennent. Ces provocations. Ça veut dire quel est encore le pouvoir du président roumain sur le ministère de l'Intérieur, sur la police, et quel est de l'autre côté le pouvoir de conviction et de nuisance par rapport au président, du chef du Parti Socialiste, M. Dragnea, qui est menacé de procès, d'arrestation, etc. Et d'autre part, quelle est la position de la Première ministre qui, disons, est au service de M. Dragnea, chef du Parti Socialiste. Donc cette ambiance est extrêmement grave, parce que ça dure depuis des mois et ça met en cause le fonctionnement de la justice et le fonctionnement de la lutte anti-corruption. Et j'espère qu'il y aura sur cette question-là des réactions européennes fortes.
Catherine Durandin, professeure à l'Institut français des langues et civilisations orientales. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie, Perth maximal de 21 degrés, Adélaïde 14, Melbourne 14 également, Hobart 12, Canberra 12, Sydney 18, Brisbane 24, Cairns 28, Darwin 32 et à Alice Springs maximal de 18 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche, Donald Trump lance un appel pour le calme. Il y a un an, Charlottesville, dans l'état de Virginie, a été le théâtre d'extrême violence entre des nationalistes blancs, des néo-nazis et des contre-manifestants. Fin du journal, merci de rester avec nous pour le reste de l'émission.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
sbs.com.au